À 48 ans, cette ancienne banquière démarre chaque jour à 6h du matin et termine à 21h. Mais Aurélie ne regrette pas sa reconversion.
Un jour, j'ai mis les mains dans le pétrin, qu'à ne le dire, ça m'a fait vibrer.
Dans les grosses évolutions, effectivement, maintenant, nous avons un public féminin qui est présent.
Mais vous voulez faire quoi comme métier plus tard?
Je serai pâtissier, je préparerai des gâteaux.
Plus de 50% d'entre eux sont titulaires d'un bac plus 2.
On revient au produit, on revient au goût, on revient à l'authenticité.
Depuis 2 ans en France, il existe une formation de fromager crémier qui débouche sur un CAP, au cas où vous aussi, vous souhaiteriez changer de voie.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont va déguster. Qui n'a pas eu un jour le fantasme de tout plaquer pour changer de métier, faire quelque chose avec ses mains, se mettre au vert, redonner du sens à sa vie. Autant d'expressions qu'on entend souvent dans la bouche de ceux qui souhaitent s'engager dans un nouveau départ professionnel. On s'intéresse aujourd'hui au destin de celles et ceux qui ont franchi le pas et qui sont devenus, à 30, 40 ou 50 ans, boulangers, fromagers, vignerons ou encore paysans maraîchers après une carrière dans un tout autre secteur. Seulement voilà comment on s'y prend. Quelle formation suit-on? Peut-on bénéficier d'aide? Y a-t-il eu des moments de désillusion ou de découragement? Eh bien, on en parle avec nos deux invités du jour qui ont pas mal de choses à nous raconter. Tout d'abord, Augustin Denoux, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez 31 ans, Augustin. Et vous êtes devenu crémier, fromager et même caviste après un master en droit international et un début de carrière dans le domaine juridique, c'est bien ça?
Exactement.
Vous allez nous raconter comment vous êtes passé du master au Munster et comment pardon, excusez-moi, je pouvais pas m'en empêcher. Et comment vous êtes devenu associé dans une fromagerie, la fromagerie Escudier à Boulogne-Billancourt, on est dans les Hauts-de-Seine, tout près de Paris, avec déjà 2 adresses.
Et oui. À Boulogne-Nord et à Boulogne-Sud.
On va aussi déguster un peu. Vous nous avez apporté quelques fromages coup de cœur et à mon avis, ils ne vont pas repartir vivants de ce studio. Marie-Pierre Canu, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous allez nous expliquer comment on passe à 40 ans d'une carrière dans l'audit financier à une nouvelle vie dans le maraîchage. Vous cultivez des légumes en agriculture biologique à Gennevilliers. On n'est pas très loin de Honfleur dans le département du Calvados. Vous vendez vos légumes bio en direct sur votre exploitation qui s'appelle, j'adore ce nom,
la ratatouille.
Ah, ratatouille, alors c'est un rat, mais c'est aussi un lieu où on peut faire de la ratatouille.
Ouais, il y a tous les légumes pour, en tout cas.
Peut-être pas en ce moment, mais bientôt en tout cas.
Bientôt.
D'où le nom de ratatouille. Et on va voir avec vous qu'une reconversion dans ce métier de la terre, bah, c'est loin d'être une promenade de santé, mais c'est en même temps une belle expérience extrêmement stimulante. Notre reporter Stéphane Combe est allé sur le terrain, il a frappé à la porte de plusieurs organismes à Paris et en région qui dispensent des formations pour adultes dans le but de décrocher un CAP, nous entendrons les témoignages de formateurs et d'apprenants en cours de reconversion dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs, je demande en ce dimanche notre chroniqueuse Estherelle Payani et notre chroniqueur vin du jour, Dominique Hutin. Bonjour les amis.
Bonjour. Salut à tous.
Vous allez bien?
Très bien.
La Normandie à l'honneur, Dominique, aujourd'hui?
Allez, là, il y a un vrai casting, il y a un tropisme normand magnifique.
Bon, en même temps, vous nous avez apporté du vin et pas du cidre.
Oh, c'est bien joué, c'est un peu... Ok. Pour l'instant, j'abdique, mais gardez des forces pour tout à l'heure. J'ai encore des choses à vous dire.
Ah d'accord, on n'a pas d'indice sur ce que vous nous apportez aujourd'hui.
Si, on va quand même rallier les environs de l'Aveyron. Alors, pas en Aveyron, non, mais sur le porte-bagages d'un néo-vigneron qui sera en l'occurrence une néo-vigneronne.
Festival de jeux de mots aujourd'hui, merci beaucoup. Une néo-vigneronne, vous êtes donc en plein dans le sujet de la reconversion professionnelle. Estherelle?
Moi, je reconvertis mon frigo aussi, avec de beaux restes.
Oui, et de très, très beaux restes. Comment utiliser des croûtes de fromage qui nous restent dans le frigo ou bien un cul de bouteille de vin?
On va voir jamais ça. Il en reste.
On va voir ça avec Estherelle tout à l'heure. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Mathias Saléon à la technique, Nadia Chougui, Alexia Lacour à la préparation. Pour réagir en direct dans cette émission, vous avez certainement des réactions ou des questions à la maison. Vous connaissez le mode d'emploi. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Les métiers de bouche font saliver. C'est le constat qu'on peut dresser en observant tous les sondages, les études sociologiques, mais aussi la hausse du nombre d'inscriptions dans la plupart des instituts de formation. De plus en plus de personnes souhaitent, en clair, se réorienter professionnellement pour devenir boulanger, maraîcher, fromager. Alors, Augustin Denoux, on l'a dit, vous êtes crémier fromager à Boulogne, même un peu caviste, depuis 2015 après des études de droit. Marie-Pierre Canu, vous êtes maraîchère bio en Normandie depuis 3 ans après une carrière dans l'audit financier. Comment expliquez-vous le succès de ces métiers de bouche? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils correspondent à des filières qui recrutent, qui sont donc porteuses d'opportunités professionnelles? Est-ce que c'est le fait que ces métiers sont très médiatisés ou parfois même médiatisés dans les émissions de télévision? Est-ce que c'est lié à des convictions personnelles ou écologiques?
Mais c'est vrai qu'en soi, on a quand même un héritage en France, un héritage culturel sur la gastronomie, et que peut-être on est, avec la crise écologique que l'on vit actuellement, il y a peut-être une espèce de souhait de vouloir défendre ce patrimoine-là, et de, au quotidien, puisqu'on fait quand même normalement mange 3-4 fois par jour, pour les plus raisonnables, c'est vrai que c'est quelque chose où on va pouvoir concrètement agir sur notre monde, sur notre environnement.
Et sur une alimentation peut-être aussi qui a fini par nous échapper, ou qui est désormais aux mains d'une industrie agroalimentaire. L'idée de reprendre en main son alimentation, celle des autres.
Bah, nous relier à la terre, tout simplement. Enfin, simplement se dire que, comme le fait Marie-Claire, c'est, on vit quelque chose grâce au sol. Et que d'une graine germe des légumes, ou bien du pied d'une vache va sortir du lait, qui est quand même le symbole de la vie. Et bien se dire, j'ai pas envie que ça se soit dénaturé derrière.
Et l'idée d'avoir, de saisir une opportunité professionnelle dans un métier qui a le vent en poupe, en l'occurrence celui que vous avez embrassé, ouais. Celui de fromager crémier, de crémier fromager ou fromager affineur, ça dépend un peu des appellations.
C'est vrai que c'est des métiers qui attirent énormément, c'est des métiers qui sont très intenses, qui demandent un véritable engagement. Mais être au quotidien en relation avec les gens, c'est aussi ça du lien social pour nous, puisque nos boutiques, on accueille des clients quotidiennement, et c'est aussi ça faire passer ces messages et simplement se dire que on donne du vivant.
Marie-Pierre Canu, est-ce qu'il y a aussi la volonté de faire quelque chose avec ses mains?
Oui, complètement. Mais oui, parce qu'en fait, ça raccroche à la terre, ça raccroche au vivant, et on crée quelque chose, comme disait Augustin tout à l'heure. Semer une graine, on a l'impression complètement de donner vie à quelque chose. Et là, en ce moment, au jardin, c'est que ça. On approche du printemps, et on se dit que avec nos actes de tous les jours, semer des choux, semer des radis, planter des oignons, ben on va produire une alimentation qui va être bonne pour nous, pour notre famille, pour nos amis et pour toutes les personnes qui vont pouvoir venir sur la ferme. Et ils sont tous super contents de me trouver en ce moment, parce qu'en fait, le nombre de personnes qui, depuis 2 ans, quand ils viennent acheter des légumes, disent « mais ça fait longtemps qu'on cherche un maraîcher bio dans le coin pour s'approvisionner localement ». Ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent, ils ont envie de savoir comment est-ce que ça pousse, et d'avoir confiance aussi dans ce qu'ils achètent.
Et comment ça pousse bien? Car je crois que les convictions environnementales ont pesé beaucoup, en tout cas, dans votre choix de changement professionnel.
Ah oui, moi le bio, ça a été une évidence dès le début. Je me suis pas posé la question de savoir si j'allais acheter un énorme tracteur et puis des grosses machines pour faire de la quantité. Non, ça a été je travaillerai avec mes mains et sur une surface que je peux gérer moi-même. Et oui, effectivement, la conviction, elle est depuis toute petite, parce que mes parents se sont installés une première fois sur une ferme, un haras. Donc la ratatouille, c'est parce que voilà, on est installé sur un haras.
Vos parents sont éleveurs de chevaux?
Ouais. Entraîneur de trotteur. Et la première installation a eu lieu dans l'Orne, où j'ai vécu mes 10 premières années. Et cette exploitation était juste en face d'une usine de métaux lourds qui a pollué tous les environs de l'usine. Et voilà, ça a été.
Avec des conséquences directes sur la vie du haras de vos parents.
Ouais, complètement. Complètement. Et ils ont été ensuite en justice pour obtenir réparation de tout ça, parce que les chevaux n'étaient pas du tout en bonne santé. Enfin voilà, ça leur a un peu gâché cette première expérience de ferme. Donc on est arrivé à Genneville et voilà, le bio, c'était une évidence.
Donc des convictions écologiques chevillées au corps depuis toute petite, et qui prennent vie aujourd'hui à travers ces expériences que vous allez évidemment nous raconter. Mais juste avant d'aborder vos aventures, je vous propose de découvrir un premier exemple. Notre reporter Stéphane Combe est allé pousser la porte du mine de Rungis dans l'Essonne. On est en banlieue parisienne, c'est au cœur de ce marché d'intérêt national qui est situé un centre de formation d'apprentis. C'est un organisme qui forme et convertit des adultes au métier de bouche en général et au métier, attention, de poissonnier en particulier, au cœur de la criée de Rungis. Visite guidée avec son directeur Éric Derenne et le formateur meilleur apprenti de France, Romain Dosanimento.
Ici, vous êtes avec une section de CAP en un an qui sont des personnes en reconversion ou en conversion professionnelle. quelques critères, nous les retrouvons chez pratiquement tous ces candidats. C'est la détermination, l'engagement dans la formation, une véritable passion naissante, un taux de réussite important, j'allais dire très important, au diplôme, avec des notes très, très bonnes. On a eu aussi bien des ouvriers que des agents de maîtrise, que des cadres, mais c'est la qualité de l'artisanat qui ressort ici avant tout.
Installez vos postes, les tabliers qui ne sont pas utilisés, on les accroche s'il vous plaît. Vous commencez par le bar en portefeuille.
Chef, c'est un portefeuille central ou dorsal ou ventral?
Dorsal. Premier cours que j'ai fait avec vous, tout filet doit sortir sans arête et sans peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nazib?
On retire la peau et on désarrête. Déjà, on enlève toutes les nageoires.
Le geste technique du grattage, en tout cas, vous avez l'air de le maîtriser. Hein.
Ah, j'apprends. Je suis encore en formation, mais je faisais pas ça avant. Je contrôlais les voitures, les points de soudure sur les véhicules, pour une grosse marque. Ça se voit quand il est gratté déjà. Il brille plus, il n'y a plus d'écailles. Ah bah oui, de nos jours, les gens, ils veulent plus préparer leur poisson. Ils veulent plus vider, parce que c'est ragoûtant de mettre les mains dans le poisson et de sortir les tripes. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il y aura toujours du boulot dans la poissonnerie. Avant, j'avais jamais touché un couteau à filet, jamais préparé de poisson, ni quoi que ce soit. Ouais, là, j'ai un peu loupé, parce que je suis passé au-dessus de l'arête. J'ai fait 27 ans en usine automobile. J'ai commencé comme câbleur là-bas. Et l'année dernière...
Pensez avant de faire votre filetage, de vider votre poisson.
Ah, c'est sûr que dans ce métier-là, faut pas avoir peur du sang. Hein. J'ai travaillé 2-3 fois pendant mes vacances, mais en tant que vendeur uniquement, dans le milieu de la poissonnerie. Et ça m'avait bien plu, vu que je me voyais pas terminer encore 15 ou 16 ans en usine automobile, vu que j'en pouvais plus. C'est pas pareil que de travailler face à un robot ou dans un local enfermé toute la journée. Poissonnier, on peut travailler sur les marchés, en boutique, aux grandes distributions. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est vivant, avoir dans les mains, les choses comme ça, préparer. Même si les gens me disent, ouais, poissonnier, c'est un drôle de métier, et que les gens ont une mauvaise image du métier de poissonnier, pour moi, non. On fait manger les gens, donc ça peut pas être mauvais. Pour moi, c'est un beau métier.
Moi, j'ai jamais eu d'attachement avec le travail. Moi, avant de faire de la plomberie, j'ai travaillé pour une agence de presse. Et avant de travailler pour une agence de presse, j'étais à l'armée. Et avant d'être à l'armée, j'étais pâtissier. Et dans la vie, en fait, faut pas se cantonner à faire un truc. On n'est pas prévu pour être mécanicien, être coiffeur ou être dentiste. On a la possibilité en France de faire ce que l'on veut, dès lors où on est motivé pour faire les choses, avec un projet. Et vous pouvez vous... Moi, j'ai 54 ans quand même. Hein. Et je suis au CFA, je suis en apprentissage avec des mecs qui ont 20 ans. Quand vous choisissez de faire poissonnier, la première chose à faire, c'est de mettre un panneau à vendre sur son lit. Ça ne sert à rien, il ne vous servira à rien après. Le plus simple pour dormir, quand on est poissonnier, c'est de dormir à la verticale. C'est beaucoup plus simple, on se met contre un mur et on dort. Les gens, ils viennent jusqu'à 20h. Donc nous, il faut qu'on soit là jusqu'à 20h, mais après 20h, il y a encore tout le nettoyage à faire. Toute la remballe des caisses, tout le glaçage du poisson, tout le nettoyage du labo, plus la fermeture de la boutique. Mais ça reste un joli métier, hein. faut pas s'arrêter à ça. Hein. C'est un métier créatif, c'est agréable. Quand on aime le poisson, c'est très agréable. Si on n'aime pas, on le sait tout de suite, de toute façon. Quelqu'un qui n'est pas fait pour être poissonnier, il s'en rend compte au bout de 2-3 heures de travail, il s'en rend compte tout de suite.
Les élèves ont fait des bars en portefeuille dorsale. On a enlevé l'arête centrale, donc là, ils sont désarrêtés, il n'y a plus d'arête. Et on les a farcis avec des poivrons et tomates.
Nazib et Philippe qui se reconvertissent donc à Rungis dans un institut de formation particulier. Alors Rungis n'est pas du tout dans l'Essonne 91, mais dans le 94, Val-de-Marne, hein, c'est bien ça?
Oui, heureusement on a nos auditeurs qui nous écoutent au grain, qui réagissent pour nous le signaler.
Je m'excuse platement auprès de tous les employés de Rungis évidemment. Donc Nazib et Philippe, alors ils appartiennent plutôt à une classe socio-professionnelle correspondant globalement au métier d'ouvrier, mais en fait on se rend compte, et c'est ce que nous racontait le directeur de cet organisme de formation, que toutes les classes socio-professionnelles sont concernées par la reconversion professionnelle, y compris vous. Alors vous êtes carrément dans la classe un peu supérieure, bac plus 5. Est-ce que le risque de se reconvertir est d'autant plus grand quand on a derrière soi des études, un métier qui était plutôt rémunérateur? C'est votre cas, Augustin Denoux. Vous avez carrément un master en droit international.
Oui, exactement. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire des études de droit et de me diriger davantage vers le droit international et notamment le droit des conflits armés. Donc ça m'a emmené à travailler au ministère de la Défense. Mais est-ce que le risque est plus important parce qu'on a en effet des possibilités financières plus importantes. Je ne sais pas, c'est simplement, je pense que le risque, il existe toujours, et qu'en soi, c'est ça qui est excitant. On est à un moment qui est un petit peu à cheval, c'est-à-dire qu'on est excité par le fait de se reconvertir, et en même temps, il y a l'incertitude, est-ce que ça va me plaire ou non ? Il y aura peut-être la possibilité de retrouver son ancien travail. Donc il y a un filet qui peut exister, mais l'essentiel, ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est que c'est des gens qui sont déterminés, et qui sont passionnés par ce qu'ils font, et qui ne s'imaginent pas, comme le disait tout à l'heure dans le reportage, s'imaginer 15 ans encore dans une usine à monter des pièces.
Mais vous aviez effectivement une carrière dans le milieu juridique, le secteur juridique, tout à fait confortable entre guillemets. Comment on bascule ? C'est quoi le déclic ?
Ben, en soi, le déclic, il va y en avoir plusieurs qui vont être provoqués. Mais c'est vrai que moi, mon déclic, ça a été au retour d'un voyage en Écosse avec ma chère et tendre, où on s'est rendu compte que finalement, ce qui nous manquait véritablement, c'était le fromage. C'était que quand on rentrait de plusieurs jours de marche, on avait qu'une envie le soir, c'était de manger du fromage. Et en Écosse, c'est pas forcément la spécialité numéro un. Le haggis, c'est excellent, mais
le cheddar de l'île de Meul.
Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, je connaissais pas ces petites merveilles.
Alors là, le haggis, monsieur évoque cette panse de brebis qu'on déguste avec une goutte de whisky, c'est ça ?
Ouais, exactement. C'est le matin, c'est tout à fait idéal pour se réveiller.
Donc vous préférez le fromage ?
Oui, exactement. Et donc, c'est vrai que revenir et se dire, bah mince, moi, ça fait 5 ans que je fais des études, j'ai suivi cette voie-là sans vraiment me poser de questions, et tout d'un coup se dire, je m'éclate dans ce que je fais professionnellement, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me titille ? Et justement, le fromage, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était une voie extra.
Bien sûr qu'on en parlera, on va même déguster les sacrés fromages que vous nous avez rapportés.
Il y a quand même un frein à tout ce que l'on raconte, la reconversion. En France, on aime bien enfermer les gens dans des cases. Mmh. Et si vous formez un projet un peu trop éloigné de votre ADN et que vous devez avoir recours à des emprunts, à des banques pour convaincre, parfois, tout ça prend forme d'un frein. C'est assez délicat.
C'est toutes les questions, justement, Dominique, que s'est posé notre amie Marie-Pierre Canu, car je crois savoir, en tout cas c'est ce que vous m'avez dit, Marie-Pierre, en préparant cette émission, que vous êtes arrivée dans votre métier finalement de façon très naturelle, dans un parcours sans embûches et sans vraiment vous poser de questions, tout simplement parce que vous étiez bonne à l'école et que vous vous êtes orientée assez naturellement, peut-être aussi par les conseils de votre entourage ou de vos parents, bah, dans une voie finalement un peu toute tracée.
Ouais, mais en fait, complètement, moi, mon ADN, par rapport à ce que disait Dominique, mon ADN, c'est plutôt la vie à la campagne, c'est plutôt justement le contact avec la nature, les animaux. Et en fait, bah, effectivement, l'école, ça se passait bien, j'apprenais bien, on se posait pas trop de questions sur l'orientation. Et puis, en fait, encore maintenant, 14 ans ou 15 ans pour décider d'une orientation, c'est encore super tôt. On sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qui nous plaît. Donc, j'ai suivi les conseils de fil en aiguille de mon prof d'éco qui me dit de faire une prépa. T'as le niveau pour faire une prépa. Bon, je fais une prépa. La prépa, je vois que c'est après, on va en école de commerce. Je dis bon, j'aimais bien le droit parce que j'avais un petit filon pour la justice. J'avais envie aussi de parler anglais, le commerce international. Pourquoi pas? C'était des choses qui me tentaient, qui me sortaient aussi, de la campagne dont je venais. Donc, ça faisait forcément envie de bouger, de voir autre chose. Et donc du coup voilà, je suis arrivée dans l'audit financier parce qu'en école de commerce, il y avait plein d'heures de cours en audit et en contrôle de gestion. C'était rassurant parce que ça coûte assez cher une école de commerce. Donc on se dit voilà, il y a du boulot et les stages et le travail à la sortie sont assurés. Donc j'ai foncé là-dedans et sans trop me poser de questions.
Et le ras-le-bol est venu progressivement jusqu'à une certaine crise de la quarantaine, on peut dire ça comme
35.
Ah pardon. Vous aviez 35 à l'époque. Vous en avez 40 aujourd'hui, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Là, pour le coup, je me permets de vous demander votre âge.
Super.
Parce que c'est important pour que nos éditeurs comprennent bien justement vos différents parcours. Dans un instant, comment devient-on concrètement fromager, crémier, caviste, comment devient-on concrètement maraîchère ? C'est ce que vous allez nous expliquer et on va voir qu'il y a des outils administratifs et de formation très intéressants dans notre pays pour vaincre cette espèce de schéma tout tracé qui voudrait que on ne change pas de voie professionnelle en cours de route. Et tout ça se passe juste après un nouvel extrait du dernier album de Vampire Weekend avec Daniel Haim, Married in a Gold Rush. C'est un choix de Djoubaka sur France Inter.
Something's happening in the country, and the government's to blame. We got married in a gold rush, and the rush has never felt the same. Shared a moment in a cafe, shared a kiss in pouring rain. we got married in a gold rush, and the sight of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby?
Good.
If you don't know by now, there's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. All that loving turned to hate. We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby?
Good.
If you don't know by now, there's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. The rush is on to somewhere else, we're running out of time. Everything was ours, now it's just an empty mind. Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine. I thought you might learn the language. I thought you might learn to sing. We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I wanna put things back together. I wanna give, don't wanna take. Time to disavow the gold rush and the bitterness that's flourished in its wake.
Tout plaqué pour embrasser un métier de bouche. C'est la nouvelle vie que nous racontent nos invités du jour. On est avec Augustin Denoux, fromager caviste à Boulogne-Billancourt depuis 2015, après des études de droit, et Marie-Pierre Canu, maraîchère bio en Normandie depuis 3 ans, après une carrière dans l'audit financier. Il y a pas mal de réactions de nos auditeurs sur nos réseaux sociaux.
Et des témoignages surtout. On a une comédienne marionnettiste qui est devenue chef à domicile. Donc elle exerce le nom de Laure en chef, elle a suivi une formation CAP à l'AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur et elle dit « J'ai eu la chance d'avoir deux métiers passionnants et ça, ça n'a pas de prix ».
Très bien, voilà un message positif, on est en Côte d'Or, c'est ça 21 ?
Tout à fait, 21. Et on a aussi Loïc qui dit que lui s'est reconverti de Bac plus 5 à Bac moins 2 puisqu'il est devenu électricien et bien que ce soit pas dans le même domaine, il dit que c'est très compliqué à faire admettre des institutions justement, ce que vous avez tous les deux souligné.
Absolument, même si on va voir qu'il y a des solutions administrative, en termes de formation, justement, de nombreux auditeurs. Tous nos auditeurs sont très curieux de savoir quelle stratégie de formation vous avez choisi pour parvenir à vos fins. Augustin Denoux.
Comment concrètement on
passe du droit international à fromager, on suit une formation j'imagine.
Oui exactement, alors déjà la première barrière c'est aussi les proches, puisque moi je me souviens du regard liquéfié de ma mère quand je lui ai dit que j'allais devenir crémier fromager. Elle m'a demandé si c'était pour toute la vie ou juste pour rigoler.
pour un stage au mois d'août.
Oui c'est ça, exactement. Et en soi, c'est au retour du voyage en Écosse, j'ai tout simplement tapé sur le site de la NPE fromager et je suis tombé sur une offre d'une crémière fromagère à Paris qui proposait une alternance, puisqu'il y a en fait un centre de formation qui propose une alternance où vous êtes une semaine en boutique et une semaine à l'école. Donc j'ai passé un entretien et j'étais véritablement comme une feuille en automne, complètement tremblant et terrifié. Et finalement, elle a bien accepté de me prendre et donc j'ai commencé chez elle.
Ah,
bien sûr, Claire Griffon, et bien sûr chez Madame Griffon, donc qui est une crémière fromagère, bien sûr.
Une référence dans le 7e arrondissement de Paris.
Bien sûr, qui fait des préparations absolument extraordinaires.
Toute petite boutique, hein.
Exactement. Ouais, mais très gros travail de préparation.
Mais grande par la réputation.
Exactement. Et donc j'ai commencé là-bas mon parcours de formation et voilà, ça a été. C'était très riche.
Pour ceux qui sont intéressés par votre parcours, c'est un apprentissage à l'IFOPCA, centre de formation pour les crémiers, les cavistes, les primeurs, c'est bien
exactement,
ça?
Exactement, ouais, dans le 18e à Paris.
Dans le 18e, et c'est combien de temps?
Alors cette formation, elle dure 9 mois.
Oui.
Et la chance, lorsque j'ai préparé cette formation, lorsque j'en ai bénéficié, on était donc encadré par des formateurs qui sont très compétents. Aujourd'hui, c'est également le cas. Nous, on a été formés par un meilleur ouvrier de France, Gérard Petit.
Uh-huh.
Et c'est des gens qui vous transmettent évidemment des savoirs, mais vu qu'ils vous transmettent une flamme, une envie, une passion. Et ça, c'est lorsqu'on réussit à vous allumer ça en vous, je ne vais pas citer des grands chanteurs populaires comme Johnny Hallyday, mais c'est vrai que quand on a le feu en soi, c'est extraordinaire, quoi.
Et vous parlez de passion, mais plus trivialement, comment est-ce que ça se finance? Comment est-ce que l'on fait
pour être
projeté dans cette nouvelle vie?
Alors, je crois que vous êtes payé, vous étiez en alternance, donc
exactement.
Déjà un peu payé dans le métier que vous pratiquiez en alternance chez Claire Griffon, et ensuite vous avez même travaillé, je crois, à l'Ami Paulette, qui est également une fromagerie dans le 13e arrondissement. Mais c'est vrai, la question du financement.
Eh bien, en soi, c'est un vrai choix, puisque les gens qui sont donc en formation, donc en CQP, en certificat de qualification professionnelle, donc c'est l'employeur qui décide de la somme versée. En général, c'est le SMIC ou un peu plus. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix de se dire, je m'engage sur cette voie du SMIC. Et quelque part, oui, à Paris, mais après, ce centre de formation, l'IFOPCA, existe aussi à Toulouse et à Lyon. C'est un choix économique, mais lorsque vous êtes dedans à 100% et que vous avez... la richesse d'avoir un groupe qui est tout aussi énergique et passionné.
Vous êtes récompensé.
Quelque part, oui, on va pas sortir tous les soirs au restaurant, mais on est récompensé de partager tout cela.
On a beaucoup d'énergie et j'imagine qu'on compte pas non plus ses heures.
Ah non, pas vraiment.
On a l'envie d'apprendre.
Exactement.
Sans compter. Et d'ailleurs, c'est le point commun de pas mal d'élèves qui ont suivi la même formation que vous à Paris, mais je crois d'ailleurs que c'est un institut. On a mis de toute façon tous les détails pratiques en ligne, j'ai vraiment insisté là-dessus pour que les auditeurs puissent y accéder. C'est un institut parisien, mais qui a des antennes en région.
Exactement, ouais. Donc en région à Lyon et à Toulouse. Et il y a aussi donc un CAP qui a été ouvert depuis 2 ans maintenant, donc pour devenir crémier fromager. Et il y avait également dans la classe beaucoup de gens qui se reconvertissaient. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient comptables, d'autres qui dirigeaient des décathlons, enfin plein de belles énergies. Et aujourd'hui, ils ont ouvert leur boutique à Bayonne, à Lyon, à Marseille, enfin voilà, plein de choses.
Oui. Marie-Pierre Canu. Alors vous?
Moi.
Une formation également?
Oui, bah dès que j'ai décidé de me reconvertir et d'arrêter mon travail, je suis directement allée voir, parce que quand on s'installe en agriculture, on a quand même les chambres d'agriculture de nos départements qui sont là pour nous aiguiller, pour nous dire toutes les aides, toutes les aides à l'installation.
Vous avez recours à la SAFER qui se charge de distribuer certaines terres libres?
Alors, j'ai pas eu recours à la SAFER parce qu'en fait, j'ai acheté 10 hectares de terre à mes parents. Et où là, du coup, il n'y a pas
donc
de...
donc ce fameux haras.
Voilà. J'ai acheté une petite partie du haras qui s'appelle normalement le haras du boulet, parce qu'on est dans la campagne du boulet.
Uh-huh.
Mais c'est un terme que, voilà, dont je voulais un peu me débarrasser. Donc, j'ai trouvé un truc un peu plus rigolo. Et donc, non, j'ai pas eu besoin de recourir à la SAFER, ce qui m'a grandement facilité la tâche. Et donc du coup après voilà, je suis allée voir la chambre d'agriculture qui m'a aiguillée assez rapidement vers le BPREA, donc le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et là il faut aller dans un centre de formation continue, donc un CFPPA.
Alors c'est des sigles à rallonge, etc. Ouais. Mais encore une fois il y a tous les détails sur notre page internet.
Ouais. Et donc du coup là ce BPREA, moi j'ai décidé de le suivre à distance pour pouvoir continuer à travailler mon projet et puis aussi à gérer les filles que j'ai à la maison.
Mmh.
Et donc du coup, on se regroupait, ça dure 9 mois, on se regroupe une fois par mois pendant ces 9 mois, et sinon on a des enseignements, j'avais choisi un module sur les plantes aromatiques et médicinales qui est fait par le même CFPPA mais à Niort.
Mmh.
Je suivais aussi un module maraîchage biologique forcément, qui était dispensé à Coutances. Et pendant cette formation...
Ah ouais, il vient de là-bas Dominique.
J'arrondis les yeux, il se passe plein de choses dans le 50.
Il était super bien.
Dans la Manche.
Et justement, vous recommandez cette formation?
Pilote, il faut le dire, il y a un lycée formidable.
Ouais.
Parce que j'imagine que c'est pas très facile, 14 ans d'audit, vous travaillez dans une société internationale, KPMG, pour ne pas la citer. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir la DRH? Vous négociez une rupture conventionnelle de votre contrat?
Ouais, mais ça se fait simplement en fait.
Et dans la finance, on est habitué au radis, je crois.
Pas mal. Vous cultivez aussi de l'oseille? Bon, allez, on peut y aller. D'accord. Merci beaucoup, Dominique. Bah, comment vous faites, Marie-Pierre? Oui, ça se fait naturellement.
Oui, ça se fait naturellement.
C'est comme
plus que,
une nécessité.
D'autant plus qu'en plus, ce cabinet KPMG, j'ai jamais eu de problème de reconnaissance, d'échange, de solidarité. Enfin, c'est vraiment quelque. Je me suis sentie très, très bien pendant ces 14 ans chez KPMG. Et en fait, on avait même gardé un lien. J'expliquerai peut-être un peu plus tard parce que. Mon parcours et les besoins ont fait que j'ai gardé un mi-temps salarié. Enfin, je suis revenue 2 ans après reprendre un mi-temps salarié chez KPMG qui m'a donné cette chance de me reprendre à 50% en changeant complètement d'activité, en me permettant de travailler beaucoup de chez moi pour que ça me permette de gérer aussi les impondérables du jardin. Et voilà. Donc,
10 hectares sur le haras des parents, quand même, dans le Calvados, avec 2 serres, une 3e d'ailleurs depuis peu. Vous avez une serre de 280 mètres carrés, une autre de 380 mètres carrés, une 3e serre que vous avez construite l'an dernier. C'est énormément de travail que vous assumez toute seule, sans avoir les moyens, évidemment, de faire appel à une aide ou quelqu'un en apprentissage. Et donc, l'obligation aussi de jongler avec un emploi à mi-temps chez votre ancien employeur pour vous assumer et assumer notamment,
la vie de famille.
La vie de famille.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, pendant ma formation là, de BPREA, j'ai fait un stage chez Didier et Isabelle Delaporte, qui sont maraîchers bio à Villers-Ville.
Formidable, ils sont en biodynamie.
Des personnes exceptionnelles qui m'ont donné le feu, la flamme de ce dont tu parlais, Augustin. Mais il y a eu un moment donné où j'ai eu un déclic, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée, parce qu'on était toujours 4, 5 à travailler dans les serres, pouvoir discuter, échanger sur ce qu'on est en train d'observer, sur le futur de la serre. Et je me suis retrouvée toute seule à un moment donné. Je me suis dit, mais non, ça va être compliqué en fait de passer d'un monde de KPMG où on est sans arrêt au contact des clients ou des équipes à être toute seule sur ma ferme, à me poser moi-même toute seule les questions. Donc voilà.
Et à terme l'idée d'être à plein temps sur votre exploitation.
Ouais. Oui, complètement.
C'est une période transitoire.
Ouais, là je m'installe. Les 3 premières années, y a beaucoup d'investissements. Il faut monter aussi tout le plan de culture. Et non, j'espère quand même à échéance 3 ans de pouvoir être complètement à plein temps sur le maraîchage.
Et le résultat est là. J'ai eu la chance de visiter votre exploitation plusieurs fois. Il y a des abeilles partout qui butinent, il y a des arbres fruitiers, on est dans une vie campagnarde un peu idéale vue de l'extérieur, même si j'imagine qu'il y a pas mal d'embûches et que vous avez surmonté des obstacles, qu'il y a encore beaucoup à faire. Le résultat est ici. On va déguster dans cette émission, elle s'appelle ainsi. Et bien entendu, vos produits, vos plantes potagères et vos légumes, il y a des radis sur le plateau, vos fromages, vos très belles pâtes, très très bien fabriquées au lait cru. On va les déguster dans un instant, mais on fait une petite pause liquide avec Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Ça va, Dominique?
Eh bien, tout à l'heure, je vous avais promis de rallier les environs de l'Aveyron. Ben, on va s'y employer grâce à cette bouteille. C'est le domaine Les Buis. C'est Pauline Broca. Alors, Pauline Broca, attention, elle est à Entreilles sur Truyère. C'est dans l'Aveyron, dans le 12.
Il est gâté par les toponymes aujourd'hui.
Oui, j'ai révisé avant de venir.
Vous pouvez nous prononcer ce village?
Non, c'est trop. Vous allez vous moquer encore. Entreilles sur Truyère, c'est dans l'Aveyron. Vous savez, beaucoup de Y.
Sans bafouiller,
voilà. Alors, c'est un rouge. 60% fer Cervadoux, 40% de Cabernet Franc. Mais surtout, ce qui m'intéresse sur l'étiquette, c'est le nom de la cuvée, c'est Marin d'eau douce. Et c'est un nom qui transpire l'humilité des premiers pas, car le point commun des néo-vignerons, qu'ils soient issus par exemple du monde rural, ou alors qu'ils soient issus de rêveries urbaines avec des trop-pleins de bitume, c'est que tous ont dû incrémenter leur première nouvelle vie d'un premier millésime, une espèce d'année zéro pour donner un premier coup de sécateur, presser les premiers raisins, bref, mais connaître les premiers émois d'une vie nouvelle qui fatalement va charrier des espoirs, mais aussi des doutes. Ceux qui vont avec. Et ben c'est l'histoire de Pauline. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs qui sont éleveurs caprins dans le Lot. Et elle a une formation d'anthropologue. Autant vous dire qu'elle était la première à ignorer qu'un jour elle serait vigneronne. Ça la dépassait totalement. Et puis, à la faveur d'un break, elle va entrer dans la restauration, se retrouver sommelière, ce qui va l'entraîner vers les vignes. Et là, bim, la révélation, un plaisir ressenti très intense qui va la conduire vers un BTS Viti. Œnologie. Alors attention, par correspondance, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'économie, cette nécessité de trouver un équilibre pour mener cette nouvelle vie de front avec une petite rente financière, mine de rien, elle va le faire par correspondance et donc elle va prudemment continuer à travailler en parallèle. Et puis la suite relève de la manière dont beaucoup d'aventures se construisent. Elle va rencontrer ses mentors. C'est le domaine Yo-Yo à Banyuls, c'est Nicolas Camarens en Aveyron, c'est Jean-Marie Viguier en Aveyron encore. Et heureux hasard, Monsieur Viguier part à la retraite. Ce sera donc l'Aveyron pour Pauline avec la reprise de son domaine et en cadeau, une région qui est préservée de l'agriculture intensive qui va entrer en résonance avec les convictions bio de Pauline qui va donc convertir le domaine. Alors Pauline Broca doit commencer à un moment et c'est tout de suite l'heure des choix avec cette question universelle, celle du dimensionnement. La tentation pour beaucoup de néo-vignerons, au final, c'est s'installer sur 2 hectares, faire tout le travail tout seul. Et au final, ça se traduit souvent par une forme de précarité économique. Là, Pauline va, elle, adopter... adopter, on peut le dire, 7 hectares, moitié en fermage, ce qui est une forme de location, et moitié en achat. Et cet achat de terre, il est possible en Aveyron pour une raison très simple, c'est que le prix des vignes est attractif, sans pression foncière, et donc ça va attirer beaucoup de nouveaux souffles.
On n'est pas dans le vignoble champenois.
Non, du tout. C'est l'antithèse parfaite. C'est un peu cet appel d'air qu'on a déjà observé, par exemple, en Auvergne, voilà, qui était une espèce d'eldorado pour les néo-vignerons. Et puis, produire en Aveyron, c'est pas tout à fait anodin, ça fait un peu figure de coquetterie exotique, avec cette chance d'être repéré plutôt qu'être noyé dans une grande appellation avec beaucoup d'autres domaines. Une autre chance, c'est son parcours de sommelière. Ça lui a permis de constituer un réseau de commercialisation avec des connexions de nombreux cavistes qui vont jouer un rôle assez inattendu, puisque à un moment, ils vont lui servir de caution légitime à l'heure de séduire les banques. Parce qu'il y a aussi des freins dans la vie rêvée dont on doit s'accommoder. Et Pauline, elle n'a pas le sou. Donc elle va emprunter et parler avec des banquiers qui ignorent tout de la chose du vin, ou alors qui sont habitués à des vins de l'Aveyron à 6, 7 euros, quand Pauline vise, elle, les 14 euros pour ses cuvées. Voilà. Bref, la banque va lui dire qu'elle n'y arrivera jamais, d'autant qu'elle a le mauvais goût de naître femme, ce qui lui vaudra des remarques sur la maternité et des doutes sur le rapport des femmes et la mécanique des tracteurs. Oh. Voilà. Donc, en conclusion, je vous rassure, l'histoire finit bien. Elle
vous
s'installe
avez
en 2018.
Au ciel,
non, c'est une réalité. On ne peut pas la taire. C'est une réalité. Et on doit quand même la faire miroiter, la dire entièrement et pleinement pour celles et ceux qui voudraient s'installer. Et donc, elle s'installe en 2018 avec un premier projet, c'est embaucher un jeune qu'elle a déjà pris comme apprenti et, par ricochet, faire vivre une famille de la commune. Reste qu'au final, pour conclure, tous ces néo-vignerons dont les aventures sonnent comme un avis de vin frais, d'une certaine manière, comme doivent garder en tête que le savoir-faire peut rester à l'état de friche s'il n'est pas épaulé par le faire savoir. Bref, il faut savoir se raconter pour trouver son public au risque de ramer. Et ce qu'illustre cette très 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 ancienne comptine avéronaise que j'ai inventée ce matin.
Ouh là là, tous aux abris.
Il navigue en aviron, aux environs de l'Aveyron, de loin en loin, d'une île au lagon, de l'Aïeul à la lune. Elle remit, lui Rémi, à la rame, remettent en rime le roman de la Rome. L'un et l'autre longent l'eau et s'allaitent au lait de lait et de l'aligot. Ça vous parlera, monsieur le fromager, peut-être.
Wow.
Voilà. Donc tout ça, Pauline vous le dira bien mieux que moi, et vous pouvez la rencontrer sur des salons.
Combien d'heures de travail sur cette allitération?
Cette nuit, dans le train.
On aime. Et précisons quand même, Dominique, franchement, vous nous avez apporté en plus une petite pépite.
Marin, c'est une délicatesse
folle. Comme disait justement Estherelle en trempant les lèvres dans le verre, on a le sentiment d'un très beau jus de fraise.
Ça
très équilibré,
fraise, hein.
Avec
c'est
à la fois la suavité, le côté acidulé.
Pour une première copie, sincèrement, c'est très abouti, c'est délicat, c'est fin.
Ah non, mais...
On prête au vin du sud-ouest d'être un peu lourd, mais là, c'est l'antithèse, là encore. C'est d'une délicatesse
ça se voit
absolue.
Même, ça se voit comme du petit lait, vous en pensez quoi? Alors, précisons aussi qu'en plus de Crémier Fromager, Augustin Denoux, à Boulogne, Fromagerie Escudier, deux adresses, vous êtes également caviste.
Et oui,
c'est-à-dire que vous vendez du vin et vous avez joué le jeu de chercher des références un peu partout en France. Là encore, on est dans le bio, la biodynamie, les vins naturels.
Et oui, comme le disait Dominique, c'est vrai que c'est ça qui est passionnant dans ces métiers-là, c'est de découvrir des gens qui se lancent et qui sont convaincus par ce qu'ils font. Et à la boutique, on a également des vins en biodynamie. Et ce que j'aime beaucoup dans ce vin de Pauline Broca, c'est qu'il y a une vraie fraîcheur, une vraie tension. Et ça qui est agréable, c'est-à-dire que c'est des vins, c'est un aliment, on le boit. On n'est pas là pour se faire des nœuds dans le cerveau, on est juste là pour boire quelque chose d'agréable et de frais.
Bien résumé.
C'est bien, oui.
D'ailleurs, on a une auditrice qui va s'installer comme néo-vigneronne, Anne-Cécile Bernet, qui signale le BTS viticulture œnologie à distance à l'ESSA d'Angers, justement.
Et c'est une cliente à moi. Anne-Cécile.
Elle va bien se former chez vous.
Et Anne-Cécile,
vous allez transmettre le bâton, vive la transmission.
Elle prend du fromage et du vin de chez Thomas Picot et c'est extraordinaire.
Belle histoire. Voilà. Chablis.
Monsieur
connaît ses classiques.
Non mais quand même. Très bien. Eh bien écoutez, on a promis à nos auditeurs qu'on allait déguster. C'est aussi l'enjeu de cette émission évidemment. Les très beaux légumes maraîchers normands, très beaux légumes bio de Marie-Pierre Canu et les pépites fromagères d'Augustin Denoux. Ça se passe juste après tout ce qu'on veut dans la vie. En voilà un titre qui est totalement adapté au thème du jour et c'est signé Louis Chédid.
Un baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie.
La reconversion professionnelle dans un métier de bouche au menu dont on va déguster en ce dimanche avec beaucoup, beaucoup de réactions qui se bousculent sur notre mail et sur le bouton intervenir de l'appli mobile de France Inter, Estherelle Payani.
Et oui, et plein de bons conseils de nos auditeurs. Anna Altea qui signale notamment l'existence de dispositifs financés pour tous avec le compte personnel de formation ou la période de transition professionnelle pour garder son salaire et son statut pendant la formation. Donc on peut tous regarder sur le site transitionpro.fr.
On va vous mettre sur la page on va déguster sur franceinter.fr. Le métier de boulanger attire des vocations. C'est ce qu'on va voir à Rouen, en Seine-Maritime, où des adultes se forment à ce métier. Notre reporter Stéphane Combe a poussé la porte de l'Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie, l'INBP, un organisme qui dispense des formations de 6 mois et demi pour préparer au certificat d'aptitude professionnelle, le fameux CAP, cours de boulangerie et de viennoiserie, avec le formateur Olivier Doublet.
Ceux qui vont avoir fini leur tradition, vous basculez sur les croissants. Allez Rémi, un joli croissant isocèle. Donc un beau triangle pour former un beau croissant. Et nous on fait en forme de croissant courbé parce que c'est la forme traditionnelle du croissant. Et puis comme c'est plus difficile de faire des croissants courbés, eh bien on demande aux élèves de faire le croissant le plus difficile à faire. Ils sont en faire le plus facile qui est le croissant droit. On a 4 lignes, donc 4 produits différents à fabriquer. Ils sont arrivés ce matin à 6h. Et puis ben, à midi et demi, il faut que tout soit fabriqué, cuit, rangé, le labo nettoyé. Donc ben, ils ne chôment pas, hein. Ils courent un petit peu. Pour certains, c'est difficile parce que précédemment, ils avaient un métier où ils étaient assis. Ils acquièrent cette habitude de rester debout et puis ben, le rythme de travailler avec ses mains rapidement. On a un taux de réussite quand même de 98 à 100% à l'examen de CAP, donc c'est quand même pas mal.
Est-ce que les différentes origines professionnelles de toutes ces personnes apportent...
Moi, je dis que ça apporte de la richesse au groupe. parce que ce sont des gens qui sont des consommateurs avertis et qui ont des notions de marketing, des notions de vente, etc. Donc on ne leur apprend pas qu'à faire le produit, on leur apprend aussi à bien le présenter, à bien le vendre, à expliquer l'argumentaire commercial sur les produits, parce qu'ils sont très sensibles à ça.
Alors là, vous avez fait un croissant, mais vous avez mis un petit peu de temps quand même pour le faire.
Voilà, il faut acquérir du rythme au fur et à mesure de la formation, et c'est aussi pour ça qu'on fait un stage après.
Et là, ça fait que 3 semaines qu'ils font de la viennoiserie.
C'est le côté magique de faire un croissant, puisqu'on part d'un bout de pâte et on arrive à quelque chose de joli et de bon. C'est une partie de ce qui me fait rêver dans le métier.
Bon, les petits pains, quand c'est coloré, c'est cuit, d'accord? Parce qu'après, c'est trop sec, et les baguettes, quand c'est noir, c'est cramé. Amélie, le monsieur veut bien enfin manger vos pains briochés.
Ah, c'est bon.
Il n'y a rien de tel quand ça sort du four. Ah,
ouais. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à...
Olivier nous le répète sans cesse, c'est le boulanger fait toujours autre chose. C'est-à-dire que là, pendant que mes pains sont au four, il faut que je pense à mes viennois qui sont en train de pousser dans mon tour, parce que si j'attends trop longtemps, ils vont craquer à la cuisson, ils vont plus être beaux. Après, effectivement, il y a la face cachée derrière de comment on intègre l'école. Et moi, typiquement, j'étais inscrite à Pôle emploi, et donc je suis. La réponse que l'on m'a faite, c'est que j'étais trop diplômée pour être aidée.
Au final, vous avez dû payer de votre poche cette formation.
Ça, c'est ça. Et ça a quand même un coût de plus de 8000 euros. Vous avez choisi de peut-être gagner moins d'argent dans un premier temps. Vous avez choisi de vous lever au milieu de la nuit. Donc c'est dur. Mais pour moi, c'est positif parce que j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile tous les jours.
Et voilà, ils sont chauds, mes croissants, ils sont chauds.
Trop diplômé pour être aidé, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Pas facile d'être aidé quand on est à bac plus 5, bac plus 6.
Ouais, ben moi personnellement, en fait, après le BPREA, j'avais décidé de le faire pour pouvoir avoir le droit aux aides à l'installation. Et c'est tellement administratif et j'avais pas vraiment envie de me mettre dans tout ça, sans aucune certitude en plus. Donc du coup, j'ai fait le BPREA, mais j'ai pas demandé les aides à l'installation. Ça décalait de trop.
Vous avez préféré faire un emprunt?
Ouais.
Ou éventuellement utiliser des économies ou de l'argent que vous aviez mis de côté.
C'est ça aussi l'avantage d'avoir fait des études et d'avoir eu un boulot bien rémunérateur, c'est qu'effectivement on met un peu d'économie et ça rassure un petit peu quand il faut se lancer et faire des investissements.
Il paraît que Payani rime avec reconverti.
On va déguster. Sur France Inter.
Non mais attendez Estarelle. Vous êtes donc une reconvertie ?
Eh oui, ça y est, je l'avoue aujourd'hui, parce que jusqu'à 30 ans, ma passion dans la vie, et mon gagne-pain aussi,
les
ça
timbres.
A été la classification d'Iway, les ISBN et les thésaurus de mots-clés. J'étais documentaliste et fière de l'être, mais ma passion des casseroles a finalement pris le dessus. La reconversion, parfois, vient à vous de fil en aiguille. Et souvent avec plusieurs boulots en même temps. Bon, en fait, on n'est pas tout à fait là pour parler de ma vie, mais plutôt de la reconversion des autres. Et surtout celle des aliments.
Oui, car la reconversion des aliments, bah, c'est votre nouveau concept marketing.
Totalement, j'assume. Parce qu'au 19e siècle, on parlait de l'art de cuisiner les restes. Mais dorénavant, on dit anti-gaspi, zéro déchet. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. La reconversion, c'est la base même de la cuisine. Le seul et unique domaine où l'on peut considérer que l'expression « avoir de beaux restes » est un vrai compliment. Et d'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai découvert que France Inter avait publié en 1976 un livre nommé « L'art de cuisiner les restes,
non, mais attendez,
les
je
recettes
le savais pas.
Astucieuses des auditrices de France Inter ».
Quand j'ai découvert ça.
Qui n'est malheureusement pas en ma possession, il n'est pas arrivé à temps. Mais pour le moment, j'ai juste vu sa couverture.
Un, petit
un homme en toque blanche devant sa casserole et son poste de radio, avec derrière son épaule une dame blonde joignant les mains, confite d'admiration, pétrie d'amour devant le talent du chef. J'ai dû me pincer et relire le titre pour être sûr. Ouais, il s'agit bien pourtant des recettes des auditrices. Dommage d'avoir oublié les auditeurs qui cuisinaient quand même en 76, c'était pas la préhistoire. Puis heureusement qu'il y a un chef dessiné sur la couverture pour valider tout ça, hein, histoire de bien nous faire comprendre que les femmes, évidemment, ne s'y connaissent pas du tout.
Mais en fait, c'est archiviste, votre premier métier pour aller nous exhumer ça. On n'avait jamais entendu parler de ce livre, on en a parlé ce matin avec Laurent Thomas, notre réalisatrice.
Ouais, remuer la poussière, ça permet parfois d'éviter d'avoir des regrets sur ce bon vieux temps. D'ailleurs, on pourrait penser que ça va mieux, surtout en ce jour où l'on est supposé fêter ses grands-mères. Eh oui, aujourd'hui, 1er mars, la fête des grands-mères, c'est pauvrette, donc on nous les colle à toutes les sauces. Dans les enseignes des restaurants, sur les paquets de café, de gâteaux, dans les interviews de chefs. Mais moi, quand je vois l'aïeul de sortie, je me méfie. En général, elle sert de caution sentimentale et de faire valoir. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le bon jour pour reconnaître son vrai savoir-faire et son métier exercé bénévolement. Car pour nourrir des tablées entières tous les jours, 730 fois par an,
365 x 2, hein. Il faut être un sacré chef et il n'y a pas besoin de toc pour ça.
Bien dit. L'art de cuisiner les restes, qu'on soit donc chef chez soi ou au resto, bah, finalement, même combat.
Bah oui, parce que contre le gaspillage alimentaire, on y va tous azimuts et on en a souvent parlé ici. Et pour ça, je vous ai amené mon dernier coup de cœur en librairie, Le pain et le vin, le livre de cuisine anti-gaspi. 60 recettes pour utiliser le pain et le vin qu'il vous reste de Aurélie Théron chez La Martinière. Comme on est dimanche, qu'il y avait du fromage sur la table et Dominique Hutin sous la main, ça s'imposait. Hein.
Alors pour le plaisir.
Pour le pain, on va retrouver dans cet ouvrage tous les basiques. Le pain perdu, mais aussi le Miget Poitevin, vin rouge, pain et sucre pour la soupe dessert sucrée, le Rigaudon bourguignon, le Wesh, la Panzanella. Et pour le vin, on va trouver de la pâte à tarte, mais aussi de la gelée, des crèmes aux œufs. Il y a vraiment du salé, du sucré, du blanc, du rouge, de la chèvre, du pain perdu.
Ça suppose qu'il reste quand même du vin, il y a rarement des prisonniers.
Pour ça, je vous ai mis une petite recette de sablé au vin rouge, mais là, surtout, ce que je vais vous faire déguster, c'est des petits biscuits apéro à base de chapelure et de gouda au cumin.
Ça peut marcher avec plein de fromages. Augustin de nous.
Je vous dis la recette en deux mots, c'est tout simple dans un mixeur. 125 g de chapelure maison avec 50 g de beurre, 50 g de gouda, 2 blancs d'œufs. Alors c'est pas mal aussi pour utiliser les restes de jaune et de blanc. Une petite cuillère à soupe d'huile, alors tournesol, mais moi j'aime une petite huile parfumée, noix, noisette, un peu de bicarbonate. On fait des boules de la taille d'une noix, on aplatit, 8 à 10 minutes à 170 degrés. Comme ça, c'est le reste de pain, de fromage et d'œufs. Et rien n'est perdu.
Et on a la bouche pleine, c'est bien.
Ça ne gagnerait pas être servi un peu tiède ou sortir du four quand les invités arrivent à l'apéro?
Eh bien, on va voir ça avec la production pour qu'on ait un petit fournil directement dans le studio. Vous voyez ça avec la sécurité, Dominique Hutin.
En tout cas, délicieux. Très bonne idée, pardon, j'ai la bouche pleine. Vous nous rappelez les références de votre livre?
Le pain et le vin, 60 recettes pour utiliser le pain et le vin qu'il vous reste de Aurélie Théron. On avait déjà parlé de son livre sur les œufs, vous vous souvenez, avec Déborah, le jaune et le blanc?
Absolument.
Aux éditions La Martinière.
D'accord, ça y est, j'ai avalé ma bouchée parce qu'il y a des auditeurs qui me grondent chaque semaine, qui détestent mes bruits de bouche. J'en fais de plus en plus du coup. On en est à la dégustation évidemment. Augustin Denoux, vous nous avez apporté 5 fromages très chers à votre cœur.
C'est horrible, c'est impossible de choisir, mais on va quand même tailler dans le vif.
Déjà petit inventaire, parce qu'il y en a de toutes les couleurs et visiblement de tous les laits d'animaux.
Alors, on a une petite préparation maison, un brie à savarin à la truffe. C'est la dernière livraison de truffe qu'on a de chez Serge de Sazar, qui est un super trufficulteur dans le 37.
Vrai mélanosporum, ouais, garantie, sans arôme.
Pas de cochonnerie, pas d'huile, zéro.
Merci.
C'est une recette qui est toute simple à faire chez vous. C'est, vous pouvez prendre des brie à savarin, un petit peu de mascarpone, de la vraie truffe fraîche, et ça, c'est royal.
Si on a les moyens.
Bien sûr. Autrement, vous venez chez votre crémier et puis on sera un plaisir de vous en vendre. Vous avez aussi un Saint-Clément fermier, donc ça c'est un fromage au lait de chèvre.
Saint-Clément, tiens, oui.
Qui vient de Dordogne, la famille Pain.
C'est pas le fromage le plus connu, hein, le Saint-Clément.
Et non, puisque c'est un fromage de chèvre qui est fabriqué par cette famille-là. Et nous, on a appelé ça, on a réuni les vocables, les fromages que vous allez avoir sous le vocable de fromage sauvage, qui justement, c'est un peu parler de ça, parler de ces fromages qui sont des fromages du vivant, qui sont faits avec amour, avec des animaux. Des races à petits effectifs, vous avez une tome de Bretagne au lait de Bretonne Pinoire de chez Nicolas Guérin.
Ah, la Pinoire, merveilleuse. Exactement. Race bovine ancienne.
Qui fait du gouel, donc le gouel c'est un gros lait, mais qui est absolument extraordinaire comme entre le yaourt et le fromage blanc. Et Nicolas fait aussi des tomes qui sont d'un jaune bouton d'or, je ne sais pas ce qu'ils en pensent.
C'est celle que Stéphane est en train de distribuer, je veux absolument goûter ça parce que vous m'avez présenté ça comme une pépite incroyable.
J'ose l'espérer que vous n'allez pas complètement régurgiter. Et en soi...
Non mais d'où vient cette couleur?
Ben c'est jaune, puisque Nicolas et Marika, sa femme, s'enquiquinent, même en hiver, à sortir leurs bêtes pour qu'elles puissent pâturer.
Et c'est pour ça. Il n'y a pas de roucou, il n'y a rien.
Zéro, zéro. C'est juste du lait de Bretonne Pinoire.
C'est les pigments de l'alimentation de la vache. Incroyable. Vous avez vu cette couleur jaune d'or?
Carotène, le carotène que vous avez dans la chlorophylle de l'herbe, qui fait que ça va devenir jaune comme ça. Ça, c'est absolument royal. Vous avez aussi un Münster fermier au lait de Vosgienne, même principe, de chez Florent Campello. Et puis, un fromage qui m'est particulièrement cher, une tome d'estive, puisque nous, on est assez attaché au pastoralisme, qui est une tradition ancestrale et qui doit être préservée, de chez la famille Ossinieri. Ils sont donc à Borse, dans le 64. Et ça, c'est du sauvage, c'est du naturel, et ça, c'est assez extraordinaire.
Preuve qu'on peut trouver de délicieuses pâtes à la fromagerie Escudier.
Escudier,
absolument. Voilà. Boulogne-Billancourt. Et vous préparez d'ailleurs un livre, vous viendrez nous en reparler sur les fromages sauvages.
Exactement, qui sortira cet automne aux éditions Ulmer.
Merci beaucoup. Et Marie-Pierre Canu, alors vous, c'est plutôt radis en ce moment?
Ouais, mais surtout qu'en plus, j'ai pas encore produit beaucoup de légumes en hiver. Donc l'important pour moi ce matin, c'était de vous ramener au moins 3 variétés de radis. Pour montrer qu'en fait, parce que beaucoup de consommateurs sont surpris de voir qu'il existe plusieurs variétés de tout, hein, de courgettes, d'aubergines, de tomates. Et donc, ouais, en ce moment, au jardin, j'ai des radis. Et moi, la recette, là, c'est assez simple. J'ai pas trop le temps de cuisiner, donc c'est pain, beurre, radis.
Pain, beurre, radis. Et pas... Alors, des radis exceptionnels, très croquants, on va en profiter juste après l'émission. Et un beurre et un pain qui n'est pas n'importe lequel?
Non, c'est Thomas Paturel qui s'installe, qui est un futur néo-boulanger en cours d'installation à Quetteville. À Quetteville, à 500 mètres de chez moi, j'ai juste à traverser la...
Entre Gonneville, Tourneville et Manneville.
Il a utilisé le financement participatif. Voilà, je suis obligé de vous couper, mais la semaine prochaine, on fait une émission en direct, en public, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, avec la chef réunionnaise qui fait des étincelles en ce moment. C'est Kelly Rangama qui nous offrira sa leçon de cuisine. Estherelle Payani et Sylvie Augereau seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci à tous, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.